Voilà, gloire au Seigneur, bonjour à tous. On va ensemble partager sur un sujet ce matin que je vais introduire aujourd'hui. Ça sera sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre. Et pour commencer ce matin, donc, voir déjà la personne du Saint-Esprit, car il y a tout un enseignement dans l'Écriture. Quand on parle du Saint-Esprit et qu'on pose la question « Qui est le Saint-Esprit ?», certains ont un petit peu du mal à répondre à cette question, car le Saint-Esprit demeure mystérieux. Elles arrivent à situer plus ou moins le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit demeure pour eux lointain. Un jour, même Paul a rencontré des disciples qui disaient qu'ils n'avaient même jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils n'étaient pas informés, ils n'étaient pas au courant de ces choses. Et nous savons, bien sûr, qu'il y a le Saint-Esprit, nous le croyons, mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Le Saint-Esprit n'est pas limité à une puissance, comme un verset dit « vous recevrez une puissance » et certains se sont arrêtés là, et ils considèrent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est-à-dire un fluide ou quelque chose, la force de Dieu qui agit dans les croyants. Or, dans la Bible, nous allons voir que le Saint-Esprit est une personne, n'est pas simplement une puissance, c'est vrai que c'est une personne qui agit avec puissance, mais c'est une personne qui a certains aspects. Alors, à la question « Qui est le Saint-Esprit ?», on peut répondre deux choses. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu, ça s'est affirmé bien sûr dans les Écritures. Bon, on le reverra tout à l'heure, mais Pierre, par exemple, va dire à Ananias qu'il a menti au Saint-Esprit, et dans le verset qui suit, il dit « Tu as menti à Dieu ». Donc il fait le parallèle entre le Saint-Esprit et Dieu dans la même pensée. Et puis Paul, bien sûr, quand il parle du temple de Dieu et il parle du temple du Saint-Esprit, il désigne la même chose. Le corps du croyant, c'est le temple de Dieu ou le temple du Saint-Esprit. Eh bien, on voit que le Saint-Esprit est Dieu. Et puis il est une personne parce que non seulement il est Dieu dans sa nature, mais il est aussi une personne distincte de Dieu. C'est la même chose pour Jésus. Jésus est Dieu, mais il est distinct de Dieu le Père. Et c'est pourquoi il y a cette Trinité, la doctrine de la Trinité, qui enseigne que nous croyons en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais nous croyons en un seul Dieu, révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors certains ne comprennent pas bien cette doctrine et croient que les chrétiens adorent trois dieux. Ce n'est pas le cas, nous adorons un seul Dieu. C'est bien un seul Dieu, mais trois personnes distinctes en un seul Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre donc le rôle du Saint-Esprit, cette personne. C'est vrai que le Saint-Esprit n'a pas de corps, c'est un esprit, donc on a du mal déjà à le représenter. Il est invisible, il est partout à la fois. Voilà, alors, à partir de la parole de Dieu, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir 8 éléments dans la parole qui nous montrent que le Saint-Esprit est une personne. Ce sera la première étape de notre partage sur le Saint-Esprit. D'abord, c'est une base biblique mentionnant que le Saint-Esprit est réellement une personne de la Trinité divine. Premier point, donc, qui est affirmé dans la Bible, le Saint-Esprit a une intelligence. Et là, on va ouvrir dans Jean chapitre 14 et au verset 26. Jean chapitre 14. Et le verset 26. Alors j'ai placé ces versets qu'on va lire au fur et à mesure sur le PowerPoint pour vous permettre de suivre parce que ce sont des questions importantes. Et à mon avis, il y a un certain flou, même parmi les chrétiens, concernant la personne du Saint-Esprit. Et ceci vous permettra d'avoir les versets les plus importants, les plus significatifs, parce que pour chaque proposition, il y en a un certain nombre, mais là, par exemple, j'ai choisi un verset, il y en a d'autres qui le montrent, mais au moins que vous ayez ces 8 aspects qui vont être là devant vos yeux et que vous puissiez en saisir au moins un verset à chaque fois qu'il y a un aspect qui est démontré. Premier aspect, donc, il a une intelligence. Nous lisons Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. » Alors, première chose que l'on remarque dans ce verset, c'est qu'il est dit que le Saint-Esprit est un enseignant. Il vous enseignera toutes choses. Le mot paraclet, traduit par consolateur, peut-être vous avez d'autres versions sous les yeux, parce que ce mot paraclet a été traduit avocat, hein, mais le paraclet, l'Esprit Saint, on peut traduire l'avocat, le défenseur, le conseiller, l'aide, presque autant de traductions que de versions, il existe de ce terme paraclet. Pourquoi ? Parce que ce mot signifie, en fait, dans l'original, celui qui est appelé auprès de quelqu'un pour l'aider, pour le secourir. Et après, à partir de cela, bien chacun a essayé de trouver un mot qui correspondait à cette pensée. Mais l'action du Saint-Esprit n'est pas limitée à la consolation. Et c'est peut-être une traduction limitée qui a été choisie ici, car bien sûr il va consoler celui qui est abattu, l'Esprit console, mais aussi il va soutenir celui qui passe par la faiblesse, il va conseiller celui qui ne sait pas quelle direction prendre, il va défendre celui qui est accusé, il va aider celui qui est en difficulté, et c'est tout cela que représente le paraclet. En fait, dans certaines versions, ils ont préféré laisser le mot original, donc paraclet, plutôt que de le traduire, et les multiples versions évoquent les multiples aspects de l'action du Saint-Esprit. Je pourrais prendre un simple exemple, c'est que si vous avez un beau diamant, il y a plusieurs facettes, et toutes ces facettes vont briller de mille feux, et pourtant il y a un seul diamant. C'est un petit peu la même chose dans la parole. Vous avez la parole qui est là, mais qui va être traduite de différentes façons, qui va faire ressortir l'éclat de la parole de Dieu. C'est un petit peu la même chose avec la parole. Donc le Consolateur, nous avons son nom. Je vais reprendre le verset que vous avez sous les yeux. Donc c'est le verset 26. Mais le Consolateur, il est précisé que c'est l'Esprit Saint. Il est mentionné. Et ça, c'est un verset important à connaître, parce que même cette semaine, j'ai été confronté dans une discussion avec une personne qui m'affirmait que le paraclet, donc le consolateur, c'était Mahomet. Ça existe des théories comme ça. Il me disait c'était Mahomet. Jésus a annoncé que donc Mahomet allait venir. Alors j'ai tout de suite regardé avec lui, avec cette personne dans la parole de Dieu, et je lui ai cité Jean 14, 26. Et je lui ai dit, voyez-vous, Jésus lui-même nomme qui sera le Consolateur, et il dit que ce sera l'Esprit Saint. Donc il n'est pas possible que ce soit Mahomet ou quelqu'un d'autre, puisqu'il est clairement identifié dans la parole. La difficulté qu'avait cette personne avec qui je discutais, c'est que quand Jésus parle du paraclet, du Consolateur qui doit venir, il fait allusion à une personne qui doit venir. C'est comme si c'était une personne. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont cherché à identifier le paraclet avec un individu, une personne. Mais en réalité, quand on est chrétien et qu'on étudie la parole, on se rend compte que le Saint-Esprit est bien une personne aussi. Pas une personne physique, mais une personne spirituelle. C'est pour ça que ce n'est pas incompatible de dire que le Consolateur sera véritablement une personne. Oui, il sera une personne, mais il ne sera pas cette personne physique, comme certains le disent, telle ou telle personne ou tel prophète qui ont existé. Non, c'est bien le Saint-Esprit et c'est Jésus qui le désigne clairement dans la parole. Alors, notez au passage, comme nous sommes avec le verset sous les yeux, que vous avez un bel exemple de l'unité dans la Trinité divine. Vous avez ici dans le même verset le Consolateur, donc l'Esprit Saint. Ensuite, vous avez Dieu le Père, que le Père enverra. Et puis enfin, vous avez en mon nom, dans le nom de Jésus. Ceci pour rappeler que la Trinité qui est en coordination parfaite, que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout est fait en fait en harmonie dans la divinité. Le terme grec traduit par enseigner que vous avez, que le Père enverra, vous enseignera toutes choses. Alors le mot enseigner signifie apporter un enseignement, c'est un maître qui va apporter un enseignement à des élèves ou à des disciples. En réalité, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a enseigné à ses disciples et Jésus dit, le Saint-Esprit, il va faire la même chose que moi j'ai commencé à faire là, c'est lui qui va continuer. Il va vous enseigner toutes choses. Alors si le Saint-Esprit est capable d'enseigner, on peut conclure qu'il a une intelligence. D'où la proposition, le Saint-Esprit, il a une intelligence, il est capable d'enseigner. Enseigner toutes choses, ça veut dire plus précisément toutes les choses qui concernent le salut, toutes les choses qui concernent les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et d'autre part, Jésus dit qu'il répétera, il rappellera tout ce qu'il a dit. Donc le Saint-Esprit a bien sûr entendu tout ce que Jésus a dit, mais il va le rappeler. C'est pour ça que nous avons les paroles de Jésus qui sont dans notre Bible. C'est parce que le Saint-Esprit a rappelé à ses écrivains, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'il a rappelé les paroles de Jésus afin qu'elles nous soient conservées. C'est en fait, derrière tous les auteurs qu'il y a dans la parole de Dieu, les auteurs sacrés, il y en a une quarantaine, derrière tous ces auteurs sacrés, en fait, il y a un seul auteur divin, c'est le Saint-Esprit, qui fait que nous avons un seul livre, de Genèse à l'Apocalypse, qui est une unité, parce qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est la première caractéristique du Saint-Esprit, il a une intelligence. Deuxième, il a une volonté, ça c'est une caractéristique d'une personne, elle a une volonté. Alors on peut lire un texte dans 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 11, un deuxième verset qui nous le démontre. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et c'est sur ce « comme il veut » que nous allons donc insister. C'est le Saint-Esprit qui agit et qui fait comme il l'a décidé. Vous connaissez le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un passage sur les dons spirituels. Et Paul enseigne qu'il y a donc plusieurs dons, mais un seul esprit. Ce passage nous montre que l'esprit est en parfaite harmonie avec Dieu, Dieu le Père avec le Fils, et que l'esprit n'agit pas indépendamment ou en contradiction, si vous voulez, avec le Père et le Fils. Il explique donc dans ce passage, Paul, il explique que si le Saint-Esprit donne des prophéties, donne des dons spirituels, ces dons seront toujours en accord avec la parole de Dieu et avec la pensée de Dieu. Et il prend un exemple extrême, il dit, si quelqu'un parle soi-disant du Saint-Esprit et dit « Jésus est anathème », par exemple, cela est tellement évident que c'est contraire à la parole de Dieu que ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Il prend un exemple comme ça pour nous le montrer. Donc c'est vraiment le Saint-Esprit qui va être l'auteur des dons spirituels. Nous ne sommes que des exécutants. Le Saint-Esprit va parler et nous devons retransmettre ce que l'Esprit veut dire ou veut faire. Ça doit nous tenir dans l'humilité, frères et sœurs, car nous ne sommes rien et Dieu nous fait la grâce de bien vouloir nous utiliser pour manifester sa gloire. Béni soit le Seigneur. Nous devons réaliser que nous ne sommes que des instruments ou des outils entre les mains de Dieu. Je prends l'exemple très simple un atelier d'un menuisier. Dans l'atelier du menuisier, vous avez donc tous les outils qui sont là sur l'établi. Il y a des scies, il y a une scie, il y a le marteau, il y a toutes sortes d'instruments qui sont là. Mais c'est le menuisier qui choisit tel ou tel instrument en fonction, s'il veut faire une chaise ou s'il veut faire un meuble, il va utiliser les outils qui conviennent en fonction du moment. Et bien nous représentons les outils qui sont sur l'établi. Nous sommes là pour être utilisés par Dieu. L'opérateur, comme nous dit le verset, celui qui opère, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit bien sûr. Le Saint-Esprit, c'est celui qui opère. Et nous sommes l'instrument. Ce verset nous dit que le Saint-Esprit distribue les dons. Il distribue, ça signifie que, littéralement, c'est le mot qui signifie répartir, distribuer, couper en morceaux. Et les dons, ce sont des cadeaux de Dieu. Charisma, hein, vous connaissez ce mot, charisma en grec, don de grâce. Don de grâce ou alors quelque chose que l'on reçoit, mais qu'on n'a pas mérité. Voilà ce que sont les dons spirituels, les charismes spirituels. Ce sont des cadeaux immérités que le Saint-Esprit donne selon sa volonté. Il a une volonté. La volonté du Saint-Esprit va même primer sur nos propres désirs. Parce que la Bible nous dit bien d'aspirer au don spirituel. Et nous avons le désir dans notre cœur d'être utilisés par Dieu et nous aspirons à recevoir ces dons. C'est normal. Mais la volonté du Saint-Esprit est au-dessus de mon désir, car moi je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune, si vous voulez, aucune aptitude personnelle, humaine, pour exercer un don spirituel. Il faut qu'il y ait la volonté du Saint-Esprit de le donner à telle ou telle personne. Ça, c'est primordial, c'est nécessaire, c'est indispensable, indépendamment de mon aspiration normale. Bien sûr, je souhaite être utilisé par Dieu, mais ce n'est pas pour cela que je vais être utilisé par Dieu. Il faut que lui le décide. Il faut que lui en ait la volonté. C'est là encore donc le Saint-Esprit qui décidera quel don accorder, en quelles circonstances il va nous l'accorder. C'est donc véritablement lui qui décide. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Quelle est ma place, moi, croyant, enfant de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Je répondrai simplement, nous n'avons rien à faire, frères et sœurs, si ce n'est d'être disponible comme l'outil qui est disponible pour le menuisier. Il est là sur l'établi, ça veut dire qu'il est prêt à être utilisé. Il est fonctionnel, ça veut dire une vie de prière, ça veut dire lire la parole de Dieu, ça veut dire être un outil, bien sûr, bien aiguisé, mais on ne peut pas être utilisé si Dieu n'a pas décidé de nous utiliser. En ce qui concerne les dons spirituels, c'est ainsi. Donc attendons-nous à être utilisés par le Saint-Esprit. Ne soyons pas surpris d'être utilisés par le Saint-Esprit, parce que lui, c'est son désir. Maintenant, il faut nous y attendre. Et puis, ne fuyons pas si le Saint-Esprit désire nous utiliser ou s'il nous parle. Parce que nous sommes des outils, en quelque sorte, vivants. Et nous pouvons refuser, c'est un peu cette image-là, que l'outil, il pourrait s'échapper de la main, il voudrait pas être utilisé par le Saint-Esprit, il a peur, il veut fuir, parce que nous sommes des outils vivants. Et donc, au contraire, acceptons d'être malléables entre les mains de Dieu pour faire sa volonté. Le Saint-Esprit fait donc ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, et comme il veut. Et quelquefois, nous, chrétiens, on a tendance un petit peu à juger, à se dire, mais pourquoi le Saint-Esprit utilise un tel ou utilise un tel et pas moi? Mais qui sommes-nous pour juger l'action de Dieu, qui est souverain dans sa manière de procéder et qui nous humilie? Et peut-être ce sera moi le prochain instrument du Saint-Esprit, ça sera peut-être vous, dans la mesure où chacun est ouvert et disponible à l'action du Saint-Esprit. Donc retenez juste cela, c'est que le Saint-Esprit a une volonté et qu'il désire utiliser des instruments, et à nous d'avoir un cœur assez ouvert et réceptif pour être utilisé par le Saint-Esprit quand il le voudra. Troisième caractéristique d'une personne, il exprime des sentiments. Le Saint-Esprit exprime des sentiments. Je citerai un premier verset dans Romains chapitre 15 et au verset 30, où Paul écrit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et vous notez bien l'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit est donc capable d'avoir des sentiments d'amour. Deuxième verset, Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et dans ce verset, on voit la tristesse. Alors l'amour, premier verset, le Saint-Esprit donc ressent un amour, on peut dire un amour même distinct de celui du Père et du Fils. Chacun ressent un amour propre à sa personne. Qu'est-ce que l'amour du Saint-Esprit? L'amour du Saint-Esprit, c'est l'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Et c'est comme ça que les chrétiens s'aiment les uns les autres, que nous nous aimons les uns les autres, parce que le Saint-Esprit le répand. Il y a ce verset qui montre que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Un des aspects du fruit, c'est l'amour. Donc le Saint-Esprit vient en nous et il répand son amour dans nos cœurs afin que nous aimions nos frères, nos sœurs, même les gens qui sont perdus dans le monde, etc. La palette des expressions du Saint-Esprit est très diversifiée. On a cité deux exemples, mais si on regarde la tristesse, dans Éphésiens 4, 30, là, deuxième verset, ça paraît étonnant que le Saint-Esprit puisse exprimer de tels sentiments. Littéralement, le mot triste, traduit par triste, signifie rendre affligé, affecté de tristesse, jeté dans la douleur. Donc, c'est vraiment des expressions très fortes de souffrance, de tristesse, etc. Et puis, certaines personnes sont gênées à l'idée de penser que Dieu ou que le Saint-Esprit puisse ressentir des sentiments, parce qu'ils considèrent que les sentiments sont purement humains et qu'un Dieu, est au-dessus des sentiments, en quelque sorte. Or, la parole de Dieu nous montre que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, tous trois expriment des sentiments qui ne sont pas contraires à leur propre divinité. C'est tout à fait logique. Si le Père, le Fils expriment des sentiments, le Père, par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc il exprime l'amour. Le Fils, il est dit qu'il a pleuré en voyant Jérusalem, qu'il était triste parce qu'ils étaient dans le péché, puis qu'il était ému de compassion à différentes reprises. Donc il a exprimé des sentiments. C'était aussi logique que le Saint-Esprit, finalement, exprime des sentiments. Voilà, vous avez ces deux versets sous les yeux. Maintenant, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit si on regarde le contexte du verset? Dans le contexte immédiat, ce sont les paroles mauvaises, c'est-à-dire les calomnies, les paroles blessantes, les propos inconvenants. Le Saint-Esprit les entend et cela crée en lui de la tristesse. Mais pas seulement, on pourrait dire que, si on lit les versets autour, c'est tout ce qui est contraire à l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire en nous? Le Saint-Esprit veut faire une œuvre de sanctification. Et tout ce qui est contraire à l'œuvre, à la volonté de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire faire le mal, mentir, voler, etc., tout ce qui est contraire à son œuvre va l'attrister aussi. Et vous avez toute une liste qui suit le problème des paroles mauvaises. Donc, ne freinons pas l'action du Saint-Esprit, au contraire, recherchons nous-mêmes la sanctification, la sainteté de vie, marchons dans les voies du Seigneur, parce que quand nous péchons, cela va affecter l'esprit. Alors, si le Saint-Esprit est attristé, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va nous communiquer la tristesse. Et un chrétien qui est vraiment sincère, lorsqu'il a péché, il va être triste. Il va en être affligé parce que le Seigneur va lui montrer, le Saint-Esprit va lui montrer qu'il est dans une situation de péché et va lui communiquer cette tristesse. Et cela va l'amener à la repentance. Et cela va l'amener à demander pardon à Dieu et à repartir avec le Seigneur d'une bonne manière. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il exprime des sentiments. Quatrièmement, toujours pour montrer que c'est une personne, le Saint-Esprit peut parler. Actes chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et puis Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Il dit, dans le premier verset, il crie dans le deuxième verset. Alors, le Saint-Esprit, bien sûr, désire communiquer, c'est une personne, on l'a dit. Philippe, dans le premier verset, il est appelé à quitter un lieu de réveil à Samarie, où il fait des prodiges extraordinaires par la main de Dieu, et le Seigneur lui dit, tu vas sur tel endroit, la route qui va de Jérusalem à Gaza, c'est une route déserte, tu vas là-bas. Et il pouvait bien se demander pourquoi le Seigneur l'avait envoyé dans cette direction, parce qu'il ne se passait rien. Et il était là en train d'attendre, mais le Saint-Esprit ne nous dit pas tout à l'avance. Il lui a juste dit, fais le premier pas, et puis attends. Donc lui, il se retrouve là-bas, il attend, et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va lui parler. Dès que l'Éthiopien arrive, qui est sur son char, qui tient un rouleau du prophète Ésaïe, il n'y a pas de hasard, Philippe était là, lui, déjà avant, et il reçoit cette voix, enfin, il reçoit dans son cœur cette pensée, c'est une voix en lui. On ne sait pas s'il a entendu une voix audible ou si c'est une voix dans son cœur, je pense que c'est une voix dans son cœur. Quand le Saint-Esprit nous parle, C'est souvent une voix dans notre cœur, une pensée qui se fait forte. Et le Saint-Esprit lui dit, avance et approche-toi de ce char. Donc il avait l'étape suivante. Il avait fait la première étape, déjà bien. Et bien sûr, il fait l'étape suivante. Alors la première pensée qu'on a quand le Saint-Esprit nous parle et nous dit, fais ceci, fais cela, la première pensée qui vient en nous, c'est, est-ce que c'est mon imagination qui parle ou est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Bon, dans le cas de Philippe, c'était bien le Saint-Esprit. Maintenant, il aurait pu se dire, est-ce que c'est mon imagination ? Il aurait pu avoir peur d'arrêter cet homme et de se dire, il va me prendre pour un fou, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Il aurait pu étouffer la voix du Saint-Esprit en disant, c'est moi qui parle, c'est ma pensée, c'est pas le Saint-Esprit. Et il aurait finalement pu désobéir en laissant passer cet homme et en ne lui parlant pas de la part de Dieu. Et par crainte, souvent, nous désobéissons, nous ne faisons pas ce que le Saint-Esprit nous demande. Et si nous le faisons à force de le faire, bien le Saint-Esprit ne nous parle plus, parce qu'il voit bien que nous n'obéissons pas, que nous ne nous soucions pas de ce qu'il dit. Donc Philippe a bien obéi la première fois, pas vraiment compris pourquoi, il est allé sur cette route déserte. Il a bien obéi la deuxième fois, lorsque l'Esprit lui a dit, tu vas vers cet homme qui est sur ce char-là. Et il a eu raison d'obéir, parce qu'il était sensible à la voix du Saint-Esprit, il savait que le Saint-Esprit pouvait parler. Mais, frères et sœurs, rappelez-vous ceci, c'est que quand le Saint-Esprit parle, nous sommes toujours libres d'obéir ou de désobéir. Il nous faut mieux choisir d'obéir comme l'a fait Philippe, parce que cela a abouti au salut d'un homme qui a pu aussi amener l'Évangile dans son propre pays. Béni soit le Seigneur. Mais il arrive beaucoup de cas, malheureusement, où nous désobéissons, et ça c'est bien triste. Donc soyons conscients que le Saint-Esprit parle, mais obéissons aussi à sa voix. Deuxième verset donc dans ce qui est mentionné, c'est le cri. L'Esprit crie en nous, Abba, Père. Le cri de l'Esprit dans le chrétien. Bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur ce mot Abba. Peut-être vous en avez entendu. Le mot Abba, c'est un mot araméen en fait. Ça n'a pas été traduit, c'est littéralement Abba. Abba qui signifie Père. Mais père, dans les relations familières, certains ont été jusqu'à le traduire papa. C'est un petit peu l'enfant qui appelle son père. En général, un enfant n'appelle pas son père père. Il appelle son père papa. Et c'est même vrai quand on est devenu adulte, quand on s'adresse à son père, on l'appelle toujours papa, c'est toujours le papa. Bon. Et pourtant, si on est extérieur à la famille, on dira c'est le père, celui-ci c'est le père et ça c'est le fils. Mais le fils, lui, il aura un nom particulier pour son père, papa, que les autres personnes qui ne sont pas de la famille, qui ne sont pas ses enfants, ne pourront pas l'appeler ainsi. Alors un esclave, pour vous donner une image, à l'époque où Paul écrit, un esclave, par exemple, ne pouvait pas employer cette expression de papa ou de abba pour appeler le chef de famille, parce qu'il était dépendant d'un responsable qui était le père de famille, mais lui-même n'était pas fils. Donc il ne pouvait pas l'appeler ainsi. Et de même, les Juifs n'appelaient pas Dieu leur papa ou abba, parce qu'ils trouvaient que c'était un terme trop familier, que c'était bien pour un père, un fils vis-à-vis de son père humain, mais quand il s'agit du Père divin, c'est trop familier. Et pourtant, Jésus, le premier qui a employé le terme « Abba » pour parler à Dieu, c'est Jésus. Jésus a utilisé ce terme dans Marc, chapitre 16, verset 36, lorsqu'il est à Gethsémané et qu'il vit les agonies précédant la croix. Et là, il va dire « Abba, Père ». Et il va faire une prière en appelant Dieu, donc de cette manière-là, très très intime. Paul va reprendre cette expression « Abba » pour montrer le privilège que nous avons d'être chrétiens, parce que nous pouvons appeler Dieu notre papa, ce qui n'est pas le cas des autres. Et il fait ce parallèle, je vous parlais de l'esclave tout à l'heure, qui ne peut pas appeler le maître de la maison papa, mais qui l'appelle maître. Ben, Paul, dans la même pensée, il dit que nous ne sommes plus esclaves du légalisme. Nous ne sommes plus obligés d'appeler Dieu maître, mais nous pouvons l'appeler papa, parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons une relation maintenant privilégiée avec le Dieu Tout-Puissant. Il fait un parallèle pour montrer qu'on est sorti de cette religion d'esclavage et que nous vivons dans la liberté des enfants de Dieu. Alors c'est le Saint-Esprit qui nous fait réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Cinquième élément, on peut lui mentir. Actes chapitre 5, verset 3, c'est le texte que je citais en introduction, où on voit Ananias. Pierre dit à Ananias, donc pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Je l'avais cité pour montrer le Saint-Esprit et Dieu, donc tous les deux sont divins. Ananias était un chrétien, ce n'était pas un incroyant, c'était un chrétien de l'église de Jérusalem, et il venait aux réunions, et puis il a voulu simuler une sorte de générosité, et il a menti aux apôtres, en apportant une certaine somme, faisant croire que c'était le prix d'un champ, mais en réalité c'était une partie du prix, et une autre partie, il l'avait gardée pour lui, sur un compte à part. Et puis il avait dit, voilà, je donne tout le champ pour le Seigneur. Il avait voulu simuler, si vous voulez, quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment honnête, généreux, etc. Bon, c'était peut-être un petit mensonge, entre guillemets, qui était entre lui et sa femme, il n'y avait personne qui le savait, et puis ça montrait, ça le faisait passer pour quelqu'un de bien. Et voilà, le Saint-Esprit a entendu le mensonge. Et comment est-ce que Pierre a pu savoir qu'il y avait eu mensonge ? Bien, c'est parce que le Saint-Esprit lui a révélé, il lui a montré que dans cette affaire-là, il y avait du mensonge. Pierre était rempli du Saint-Esprit, sensible à sa voix, et on voit dans la parole qu'à plusieurs reprises, des péchés ont été dévoilés, que ce soit par exemple David avec Bathsheba ou d'autres, par des prophètes, par des gens qui étaient sensibles à l'Esprit et qui ont entendu la voix de l'Éternel qui leur a dit telle ou telle chose. Donc pour Ananias, c'était grave, c'était un péché extrêmement grave, et ce qui est terrible dans ce verset, si vous l'avez lu attentivement, regardez le verset 3. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Et c'est un verset qui s'adresse à un chrétien, ce qui veut dire que ce chrétien a ouvert son cœur au diable. En mentant, il a, en quelque sorte, ouvert son cœur. Et ce n'est pas possible que le diable rentre dans un cœur si nous, on ne l'a pas ouvert avant. Un chrétien ne peut pas, si vous voulez, être possédé comme ça par Satan, ou que Satan fasse une infiltration, sauf si lui-même, délibérément, accepte d'ouvrir son cœur à l'ennemi. Et là, il a fait quelque chose de grave quand même, Ananias. Il n'en avait peut-être pas vraiment conscience, mais Satan, c'est le père du mensonge. Et en mentant, on s'associe avec le diable. Donc, il était dans le péché. Et il n'a pas simplement menti à des hommes, mais il a menti à Dieu. Et ainsi, il a démontré son mépris complet de la personne de Dieu, la personne du Saint-Esprit, comme si le Saint-Esprit ne voyait rien, qu'il n'entendait pas ce qui se passe, et qu'il laissait tout faire. Bon, il a été jugé sur le champ et il est mort sur place. Ceci nous montre que les conséquences sont bien plus graves que ce que l'on pense, nous, quand il y a un mensonge, quand il y a une dissimulation, quand il y a une fraude. Eh bien, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui mérite une sanction. Alors Ananias et Saphira vivaient un peu dans l'illusion, ils croyaient que Dieu n'entend pas, que Dieu, finalement, il est si bon qu'il ne va pas punir, qu'il va laisser passer, etc. Ben, on voit que non, on voit que Dieu demande des comptes. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne mentons jamais au Saint-Esprit, comme l'ont fait ces deux personnes et qui ont ouvert leur cœur à Satan. Quelque chose extrêmement grave. Sixième chose que l'on peut voir dans la parole concernant le Saint-Esprit, on peut lui résister. Actes chapitre 7, verset 51. C'est Étienne qui dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille ». Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Et le terme original est très fort, je l'ai souligné dans le verset. Opposer signifie être l'adversaire, lutter contre, s'opposer, résister. Donc Étienne rappelle au peuple d'Israël qu'il était opposé au Saint-Esprit. Il est devant le Sanhédrin, c'est le conseil suprême des Juifs qui sont là pour lui parler, et ses 70 membres l'écoutent avec le souverain sacrificateur, mais ils avaient ils étaient habilités à rendre des peines de fouet, voire de donner une peine capitale. Ils n'étaient pas habilités à l'appliquer théoriquement parce qu'ils étaient sous juridiction romaine, mais quelquefois, en tout cas dans le cas d'Étienne, ça c'est arrivé que ça soit appliqué. Et Étienne était rempli du Saint-Esprit, il n'a pas eu peur de dénoncer le péché, et il dit « vous avez le courroux ». Ça veut dire, c'est une image pour montrer que c'était un peuple réfractaire à la volonté de Dieu, inflexible et rebelle. Parce que le coup, c'est là où on plaçait le joug, et si on ne veut pas du joug, alors on redresse le cou en arrière, c'est un cou raide, on ne veut pas voir le joug de Dieu sur le cou. Et puis il dit, vous êtes aussi incirconcis de cœur et d'oreille, dans ce même verset. Car les Juifs se faisaient une gloire d'être le peuple circoncis, c'est-à-dire le peuple de l'Alliance. Car Dieu a fait l'Alliance avec Abraham. Abraham et Isaac, Isaac a été circoncis, c'était le signe de l'Alliance entre Dieu et son peuple. Donc de génération en génération, les Juifs sont circoncis. Et ils appellent, dans la Bible, les païens, ils les appellent des incirconcis. Alors d'un côté, il y a les circoncis, le peuple de Dieu, de l'autre côté, c'est des incirconcis. Et Étienne est en train de leur dire, vous, vous êtes circoncis dans la chair, oui, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas circoncis. Il est en train de le dire, que vous êtes encore des païens, synonyme de païens, selon l'esprit, vous ne connaissez pas, vous n'obéissez pas à la voix de l'Esprit. Votre cœur est fermé à l'action de Dieu. Il leur dit, vos oreilles n'entendent pas l'Esprit. Ben, c'est très fort ce qu'il dit. Il dit, sur le plan spirituel, vous êtes des incirconcis, donc vous êtes des païens. Alors évidemment, les Juifs ont été très choqués. Et c'est avec ce verset qui suit, lorsque Étienne dit qu'il voit le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de Dieu. Alors là, ils prennent des cailloux parce qu'ils crient au blasphème et ils vont le lapider sur place. Mais le Saint-Esprit, comme on voit dans ce texte, on peut s'opposer à son action, il ne nous force pas, il ne s'impose pas, il propose, et à nous de ne pas résister, mais de faire ce qu'il nous commande. Attention aux conséquences de ceux qui résistent au Saint-Esprit. Comme nous le dit ce texte, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ils ont rejeté le Seigneur, et ils ont connu beaucoup de difficultés à cause de cela. Septième élément, on peut outrager le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 10 et le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ? Que signifie ce verset ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux prend l'exemple d'un chrétien qui a rejeté sa foi, qui a renié le Seigneur, qui a péché volontairement, qui s'est détourné de Dieu. Et Jésus a expliqué d'ailleurs ce phénomène en disant qu'il y en a qui vont croire pour un temps. Il prend l'exemple du semeur, et parmi toutes les semences, il y en a qui croient, mais pour un temps, et après ils rejettent le Seigneur. Donc ça existe. Alors, ces personnes se placent sous un terrible jugement, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va jusqu'au bout du raisonnement. Ils disent, ils ont connu Dieu, ils ont accepté Dieu, et en rejetant ce qu'ils ont accepté avant, ils foulent aux pieds le Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le texte. Ils foulent aux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire fouler aux pieds ? C'est un signe de mépris. À l'époque, on foulait aux pieds pour montrer notre dédain d'une chose, mais publiquement, on foulait aux pieds telle ou telle chose, comme ça montrait qu'on ne la voulait pas, qu'on la méprisait. Et d'ailleurs, c'est arrivé littéralement au Japon, cette affaire-là, à une époque de forte persécution de chrétiens. Ils avaient mis par terre un crucifix et ils avaient demandé aux gens de le fouler aux pieds, de maudire le Seigneur. Et tous ceux qui refusaient de fouler aux pieds cette image du Seigneur et de le maudire, ils étaient exécutés. Donc c'était des temps de persécution très difficiles pour montrer que Quand on renie le Seigneur, c'est comme le fouler aux pieds. Et puis, il dit, deuxième chose, ils tiennent pour profane le sang de l'Alliance. Ces gens qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit, qui ont connu l'œuvre de la grâce, qui ont goûté au privilège de la vie chrétienne, puis qui ont considéré le sang de Christ comme vain, eh bien, c'est extrêmement grave. La Bible nous dit que c'est par le précieux sang de Christ. Et nous avons un grand respect pour l'œuvre de la croix, pour ce que Christ a accompli. Mais ces personnes, pour eux, littéralement, hein, ce mot qui dit profane, ça signifie commun, ordinaire, ou souillé, quelque chose de souillé rituellement pour les Juifs. Donc on se rend compte que eux considèrent que finalement le sang de Christ, ça n'est rien, ça n'a pas de valeur. Voilà. C'est comme blasphématoire. Donc une telle attitude est extrêmement grave, d'où la force des paroles de ce texte. Si cette personne continue comme ça, elle a endurci son cœur, bien elle va non seulement elle a éteint le Saint-Esprit, mais elle l'a gravement offensé, et le Saint-Esprit outragé se retire. Voilà. Donc si vraiment il y a une profonde repentance, un retour, il y a possibilité peut-être pour lui de revenir, mais il est sur une voie extrêmement dangereuse. Et puis il y a le dernier point, qui est la voie de non-retour, le huitième. Huitième point, on peut blasphémer contre lui. Ben ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Si on lit le contexte de ce verset, on se rend compte que Jésus vient de faire une œuvre extraordinaire. Il y a eu une délivrance d'un possédé qui était là avec un mauvais esprit qui le rendait muet et aveugle. Et après ce miracle, qui démontre vraiment la puissance de Dieu, la foule proclamait que Jésus était le Messie. Et les pharisiens qui entendaient ces choses se bouchaient les oreilles et disaient, mais ils étaient incrédules, ils disaient, mais si cet homme chasse Satan, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il fait cette œuvre. En réalité, ils étaient en train de dire que Jésus détenait son pouvoir de Satan. C'était quand même blasphématoire. Et Jésus leur répond, si c'est par Satan que je chasse Satan, ça n'a aucun sens parce que un royaume est divisé contre lui-même, il s'éteint. Donc ce n'est pas par Satan. Il dit c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu, et ce que vous avez vu, c'est une preuve que le royaume de Dieu s'est manifesté sous vos yeux. Donc ils avaient là Jésus en personne, ils avaient la preuve de la manifestation du royaume, ils avaient la preuve évidente de l'action de l'Esprit, et pourtant, ils étaient en train d'attribuer une action de l'Esprit au diable. C'était ça. C'est ça que ce que Jésus veut montrer, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché qui est mentionné dans l'Écriture, lequel n'est pas pardonné. Alors, comment expliquer dans ce verset la différence de traitement entre le Fils, puisqu'il est dit « quiconque parlera contre le Fils, ça lui sera pardonné », et puis il est dit que celui qui parle contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence ici entre le Fils et le Saint-Esprit? Ça fait très certainement référence au niveau de degré de connaissance que nous avons des choses de Dieu. C'est-à-dire que plus on est avancé dans la vie de l'Esprit, plus on va connaître l'Esprit et la vie de l'Esprit, ça veut dire qu'on est des chrétiens beaucoup plus avancés que quelqu'un qui connaît juste Jésus. Et donc, celui qui a connu cette avancée spirituelle et qui blasphème contre le Saint-Esprit, alors que lui-même était plus avancé que les autres, le voilà qu'il se place dans une situation encore plus grave que celui qui était moins avancé, et son blasphème est encore plus grand. C'est pourquoi il est dit que celui qui blasphémera contre l'Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est le seul péché donc mentionné comme cela. mais il fait référence à un tel endurcissement de cœur qu'il n'y a plus d'espoir de retour. Non pas de la faute de Dieu, mais de la faute de la propre personne qui s'est mise sous le jugement de Dieu et qui a dépassé la ligne, en quelque sorte, après bien des avertissements, une ligne de non-retour. Alors certains craignent, et on le voit au milieu du peuple de Dieu, d'avoir commis ce péché. C'est pas rare qu'on me demande, est-ce que ça peut m'arriver de commettre ce péché? Est-ce que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit? Ou est-ce que je vais le commettre, etc. Alors le fait même de craindre de l'avoir commis, ou de le commettre, démontre que ce n'est pas le cas. Parce que celui qui a péché contre le Saint-Esprit n'a plus la conscience, n'est plus repris par Dieu, n'a plus la possibilité de même se rendre compte de sa situation. Donc ceux qui se posent même la question, ou qui en ont la crainte, ça démontre qu'ils ne sont pas dans cette situation. C'est des situations extrêmement graves et particulières. Ce n'est pas des cas généraux. La Bible ne cite pas beaucoup d'exemples. Là, on a juste un exemple ici, mais il n'est pas textuellement dit que telle et telle personne ont commis le péché contre le Saint-Esprit. Donc, ce sont des cas particuliers dont il nous faut veiller. En conclusion, alors on termine maintenant, ce que j'ai voulu apporter dans cette première partie, c'est de vous montrer l'importance, quand on parle du Saint-Esprit, de réaliser premièrement que c'est une personne. Et ces 8 éléments que nous avons balayés ensemble sont fondamentaux pour prouver ces choses-là. Parce que ce que nous enseignons, c'est tiré de la parole de Dieu, ce n'est pas de l'imagination. Ensuite, il nous faudra voir quelle est l'œuvre, quelle est l'action du Saint-Esprit, l'action dans le croyant, l'action dans le non-croyant, etc. En conclusion, le Saint-Esprit, c'est bien la troisième personne de la Trinité. Il est divin par sa nature, il est Dieu, mais il est distinct du Père et du Fils quant à sa personne. Il a une personne propre, c'est la personne du Saint-Esprit. On va prier quelques instants le Seigneur et demander au Saint-Esprit d'accorder encore sa grâce, de bien vouloir continuer son œuvre, cette œuvre de sanctification qui a été commencée, de répandre ses dons, d'accorder cette visitation dont on a tous besoin d'être renouvelés, vivifiés dans le Saint-Esprit. Merci encore pour ta parole qui nous enseigne toutes ces vérités concernant l'œuvre et la personne du Saint-Esprit, et nous savons combien ces choses sont importantes pour nos cœurs, et nous te remercions car tout est consigné dans les Écritures et nous savons quelle est la nourriture nécessaire à notre âme, à notre foi et à notre solidité spirituelle. Bénis chacun ce matin, garde-nous dans la foi, dans la prière, et nous te prions pour que le Saint-Esprit soit déversé en abondance et que nous vivions encore des expériences rafraîchissantes et renouvelées avec l'Esprit de Dieu. Oui, nous te remercions Seigneur de bénir le reste de cette journée, de raccompagner chacun dans la paix et de nous garder jusqu'à ton retour. Seigneur, bénis aussi la réunion de cet après-midi, touche les cœurs par ton Esprit, c'est toi qui convainc de péché, de justice, de jugement, qui amène à la repentance. L'Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, et à toi toute la gloire. Amen.